Viens, on va par là. C'est quand qu'un espace te frappe pour saboter, au contraire?
On voit un peu à l'idée de l'art, finalement, de ce que peut être le goût. Je te dirais que c'est une expérience qui est d'abord intime. On est dans le plus profond de l'intimité humaine et dans ce qu'elle a de solitaire, au sens de l'irréductibilité de la solitude. Et disons que je pense que la lecture d'Heidegger m'a beaucoup aidé là-dessus. Quelque part, c'est quand il y a une forme de fulgurance dans le rapport à la chose que tu trouves belle, que tu es particulièrement connecté avec le monde qui t'entoure. Arendt est aussi sur cette fille. En même temps, c'est une élève d'Heidegger, puisqu'elle pense que ce monde qui nous préexiste, l'éducation doit nous aider à être dans sa continuité, à pouvoir aussi le prolonger, à pouvoir s'y intégrer. Et je crois que les espaces, quand ils sont beaux, ils signifient quelque chose et nous permettent d'être plus particulièrement au monde. C'est comme ça que je le définirais, mais j'imagine que toi, en tant qu'architecte, dont c'est réellement le métier, tu dois avoir une définition beaucoup plus claire, beaucoup plus incarnée de ce que peut être le beau.
Oui, certes, je me suis créé mon goût, mais au final, moi, quand je regarde un espace et un immeuble, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre s'il y a une intelligence constructive. Bah, dans le sens que même un hangar à foin, bah, je le trouve très beau, dans le sens où il est pensé pour créer un abri par le vent du nord. Tant qu'aujourd'hui, en fait, bah, surtout mon milieu, les architectes, ils sont beaucoup frappés par l'objet, par la sculpture. Je ne sais pas si tu as remarqué. Mais
Bien sûr, oui. Tout à fait.
Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce côté exceptionnel, en fait, du bâtiment?
Ce que je remarque dans ma discipline, c'est que l'exceptionnel est lié aussi à ce que l'on veut signifier par son utilisation. Le bâtiment, et ça, historiquement, le bâtiment est utilisé pour manifester au monde la culture qui s'exprime dans ce lieu, pour manifester au monde le pouvoir, les enjeux de pouvoir qui s'expriment dans ce lieu. Par exemple, l'Assemblée nationale, le Palais Bourbon à Paris, tu remarqueras, alors c'est une espèce de pastiche de temple grec.
Ah bah oui.
Et donc avec des colonnades, un fronton, des fresques.
C'était la forme de la démocratie par excellence, non?
C'est exactement,
on voit aussi,
oui.
Aux États-Unis, où c'est les précurseurs de tout ça.
Et comment ne pas, ouais, effectivement, revoir cette architecture à la lumière des idées qu'on a voulu ressusciter, qu'on a voulu remettre au goût du jour. Bon, je crois que la construction s'est terminée sous l'empereur Napoléon Ier. L'empereur. Comment ne pas voir là aussi la référence à tout l'héritage gréco-romain. D'ailleurs, c'est un hémicycle, c'est un amphithéâtre à l'intérieur du Palais Bourbon où s'exprime la volonté nationale, où se votent les lois.
Mais après, l'institution, elle nous parle surtout par cette symbole, non? Tu as dit que oui, le temple grec, le classique, c'est la forme de la démocratie, mais en même temps, c'est la forme de la dictature.
Aussi.
Je pense à Nuremberg, à tous les bâtiments, les pires bâtiments fascistes. Je dis les pires parce qu'il y en a eu quand même des intéressants. Le classique, le symbole, tu peux le prendre un peu de tous les côtés. En tout cas, oui, l'espace de l'institution, au moins, il y a eu un temps où c'était un espace monumental. Moi, avant, j'habitais à Rome, et là, il y a la cour de cassation qu'à Rome, on appelle il palazzaccio. Palazzo, en italien, c'est le palais. Palazzaccio, c'est vraiment pour dire le pire palais de la terre. Et c'est ça, parce que c'est un immense monument. Là aussi, tout décoré avec des statues de juristes, de Cicéron qui sont mis de partout. Et moi, j'ai ce souvenir affreux de quand je devais me diriger d'un point à l'autre de la ville, je tombais sur cet obstacle. Donc l'institution, c'était un obstacle parce que c'était un bâtiment qui faisait des centaines de mètres, et en plus avec des bandes de sécurité. sécurité, pour protéger cette figure inaccessible. Et c'est un bâtiment, je suis rentré une fois, qui manquait de lumière, mais d'une manière étonnante.
Mais tu sais, je crois que c'est lié aussi à une conception qui est... une conception du droit qui est liée finalement aux lumières et au temps qui... toutes les périodes qui vont suivre, considère le droit comme étant un écosystème indépendant, vivant dans un monde métaphysique, le monde des idées. D'où l'intérêt quelque part de marquer la différence entre le monde profane de tous les jours et cette espèce de sacralité fantasmée du droit dans sa pureté. Et finalement, et c'est là que je te rejoins, c'est vrai, on se demande à la fin si on n'arrive pas à une séparation artificielle et contre-productive d'avec le vrai monde. Ce qu'on n'a pas, par exemple, avec le bâtiment de l'ONU dont tu m'avais parlé la fois dernière, on est dans un autre rapport à l'architecture.
Bah oui, celui-là, c'est la pureté, non ? C'est pour ça que je te disais, à une époque, on a eu presque le besoin de rendre visible l'institution avec la pierre, non ? Avec le manque de lumière, non, un peu comme les... Aussi, il y a certaines églises, à certaines époques, qui sont peu comme ça, enfermées. Et l'ONU, non, ils ont voulu faire dans les années 50 cette prisme vitrée transparente. Et en fait, c'est transparent, mais en même temps, ça reflète.
C'est le symbole de la transparence des affaires qui s'y dérouleraient. Et puis aussi, il y a dans cette espèce de... Tu m'en avais parlé, de recherche de la géométrie pure, de la forme pure, une forme de recherche, en fait, de l'unité du genre humain. Qui était sous-jacente et qui montre bien que l'architecte avait parfaitement assimilé les enjeux de la construction, non seulement du bâtiment, mais de l'ONU derrière. Quelque chose de transparent, quelque chose d'unifiant.
Oui, c'est une forme qui à l'époque était un symbole collectif en fait. La forme pure, c'est le mouvement moderne, c'est tout un mouvement architectural qui s'est fondé sur la géométrie, sur la légèreté et aussi sur l'homologation parce que ça a vite fait devenu un style international.
Oui, c'est international, mais...
Et que du coup, on voit cette prisme vitrée un peu de partout, au Brésil, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France. Et c'est marrant, je ne t'ai pas dit, mais l'architecte qui a dessiné l'ONU à New York, c'est le même qui a dessiné le siège du Parti communiste ici à Paris, à Colonel Fabien.
Ah,
c'est un décor un peu science-fiction, on dirait.
Un film,
Alphaville.
Une espèce de futurisme. Et c'est intéressant, alors que, à contrario,
Voyage.
A contrario, on a quelque chose de l'obscurité, quelque chose du poids, des intérêts de chaque État qui se joue à l'ONU. Finalement, c'est comme si tous les idéaux exprimés par l'architecture étaient en fait contredits par la pratique. Et c'est assez désespérant. Mais peut-être que finalement, ce que montre l'architecture dans cette légèreté, c'est tendu vers le ciel, c'est transparent, c'est peut-être un rappel constant à ceux qui vont y parler, un rappel constant des objectifs de cette institution. Je sais pas ce que tu en penses. Et d'ailleurs, est-ce que vous, architecte, vous intégrez ces idéologies, ces objectifs, ces grandes idées quand vous construisez des bâtiments pour des institutions ?
J'ai pas encore eu l'occasion de me sentir un pilier de la société à tel point. Moi, je peux te dire, quand je travaille sur l'espace public, que pour moi, c'est un peu ça aujourd'hui, l'institution. Je vois les bâtiments les plus représentatifs, les plus monumentaux aujourd'hui, c'est plutôt porteur de symboles privés, individuels.
D'accord.
C'est des centres commerciaux, c'est des tours pour des armateurs, des gens qui ont fait la fortune. C'est la Trump Tower. Oui, c'est plutôt le symbole d'une réussite. Et même dans les formes, on voit que c'est des objets un peu comme ça. Par contre, je vois dans l'espace public un peu la possibilité d'effectivement de recréer une institution qui soit un peu plus à la portée de, oui, d'un objectif peut-être moins, moins d'élite. Mais que dans sa désacralisation aujourd'hui, elle me frappe. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses ?
Bah écoute, j'abonde dans ton sens. Moi, j'ai fait mes études à Nice, dans une faculté qui date des années 60, tout à la fois un petit joyau et tout à la fois quelque chose d'architecturalement très triste. Ça se présente comme un énorme bâtiment sans âme, aux couleurs pourtant en résonance profonde avec la Côte d'Azur, qui est sur une petite colline en plus, donc qui donne sur la mer bleue, souvent calme, on est en Méditerranée.
Voilà, tu vois, donc la tristesse en fait de ces formes, tu me l'as montré hier en photo, mais elle ne deviendrait pas noble par quelque chose de beaucoup moins spectaculaire. Non, et qui en fait c'est le lieu, non ? Tu me disais que tu regardais la mer pendant que je...
Oui, mais est-ce que... Alors, pour aller dans ton sens, Chagall a commis une magnifique fresque sur le voyage d'Ulysse, qui retrace toute la vie d'Ulysse. Et il l'a fait, d'ailleurs ça a été abondamment commenté par le doyen Trotabas, il l'a fait quelque part pour que chacun des étudiants puisse penser comme un Ulysse. Comme un intellectuel pérégrinant à travers le monde à la recherche du juste quelque part. Il y a quelque chose dans cette faculté qui pousse à la mer, qui pousse au voyage, qui pousse à la formation de soi-même. Mais ce que je regrette, c'est que nous, en tant que juristes, on envisage l'amphithéâtre où les cours de droit sont prodigués comme un espace sacré où la parole, la volonté générale quelque part est enseignée, transmise aux futurs juristes qui en seront les gardiens. C'est pour ça d'ailleurs qu'en principe les professeurs ont des tenues inspirées de la liturgie qui viennent du Moyen-Âge d'ailleurs, avec le rouge de l'Imperium romain. Et j'ai peur quelque part que cette architecture assez appauvrie, quoique dans un cadre extraordinaire, exceptionnel, hein, mais que cette architecture appauvrie desserve le message qui est transmis. Ce qui m'envoie d'ailleurs sur une question que j'aimerais te poser. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, les grands mouvements architecturaux permettent encore de signifier à la communauté, à la collectivité qui reçoivent ces bâtiments, l'enjeu de l'institution qu'elles abritent ? Est-ce que pour toi, on n'est pas dans une forme de désacralisation, d'abandon de l'exceptionnel qui va arriver sur une banalisation de tous les bâtiments?
Non, je vois pas ça comme ça. Je pense plutôt que le côté normal, en fait, le côté bien fait, ça doit être un objectif. Que toute dépense d'énergie dans le symbole et dans l'image, ça tombe un peu dans la... dans le côté auto-référentiel de l'architecte, et que plutôt je pense que qu'aujourd'hui la ville elle a besoin de retrouver une normalité qui soit l'esprit d'une pensée collective. C'est ça que moi je ne vois pas aujourd'hui dans la ville, dans le paysage, dans le territoire, non. D'accord. Quand tu dis déjà la vue sur la mer, ou encore la couleur d'une enduit qui vient de là, ou une placette, ou un banc. Je vois plutôt dans cette normalité, moi,
D'accord.
l'avenir.
Tu vois l'avenir dans la normalité.
Oui.
Et pour finir, peut-être avant qu'on se sépare, est-ce que tu trouves que le droit t'empêche d'exprimer tes grandes idées architecturales ? Ou est-ce qu'il te permet de le faire ?
Le droit, aujourd'hui, il normalise. Mais je pense pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il impose des choix qui sont partout les mêmes. dans l'espace public, notamment, tu peux plus planter des arbres si tu t'en tiens pas compte des angles visuels des caméras de surveillance, si tu discutes pas avec la police, si tu ne discutes pas avec des services et des gestionnaires qui n'ont pas de compétences en fait pour définir la graine d'un espace. Et donc le travail d'un architecte, d'un paysagiste, il devient un peu celui-là d'un technicien lui aussi qui prend ses contraintes qui sont valables partout et il doit faire avec ses ingrédients.